Nous allons ouvrir la parole de Dieu et nous allons ouvrir l'écriture dans le premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1er. Premier livre de Samuel, chapitre 18, verset 1er. Voilà, nous lisons ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Jonathan ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Alléluia. Voilà, ce texte que nous avons lu est très intéressant. Il y a un fil conducteur. Et le fil conducteur de ce texte, de cette méditation, consiste, et je pose de suite le décor, consiste à voir en David le type, ou le symbole, si vous préférez, l'image de Jésus-Christ. Et en Jonathan, il ne faut pas que vous perdiez de vue cela, comme ça vous allez comprendre. Et en Jonathan, il faut voir ici l'image, le type, de l'homme, de vous et de moi, qui va s'attacher au Seigneur. Quand vous ne perdez pas de vue cela, c'est le fil conducteur, vous allez comprendre la suite. Je répète, David, c'est l'image de Christ, et Jonathan, c'est l'image de notre humanité qui doit s'attacher à Jésus-Christ. Alors je développe. Le nom de Jonathan veut dire « l'Éternel a donné ». N'oubliez pas, David, Christ, Jonathan, vous et moi, l'homme, d'accord ? Le nom de Jonathan signifie « l'Éternel a donné ». En définitive, quand nous nous attachons à Christ, nous recevons ce que Dieu a prévu de nous accorder. Alléluia. Nous recevons ce que Dieu a préparé d'avance. Et il y a beaucoup de choses que Dieu nous accorde en Christ. Je n'ai pas le temps de tout souligner. Il me faudrait pas une journée, mais plusieurs jours. Mais en définitive, j'en ai retenu une qui va englober toutes les autres. Et ce que Dieu donne à l'homme qui s'attache à Christ, comme, eh bien, Jonathan s'est attaché à David, c'est l'espérance. Quand aucun élément tangible ne permet d'espérer, il n'y a plus d'espoir. C'est logique. Et c'est pourquoi dans ce monde, il y a un adage qui dit ceci, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ça résume ce que je viens de vous dire. Dans le sens, je répète, quand aucun élément tangible ne permet d'espérer, il n'y a plus d'espoir. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes dans un monde qui très souvent désespère, bien plus est dans la désespérance. Parce que les éléments sur lesquels il s'appuie, les éléments auxquels il s'attache, loin de Dieu, loin de Christ, loin de la foi en Dieu, loin de ce que Dieu peut leur accorder, croyant qu'eux-mêmes ont reçu ou peuvent donner aux autres, et c'est tangible, c'est des éléments durables, ils se rendent compte avec le temps qui passe que c'est complètement faux, et que ces éléments qui pensaient être durables, tangibles, solides, un fondement, ils se sont rendus compte que ça s'écroulait. Alors ils vont dire, mais enfin, malgré tout, rattachons-nous à quelque chose, ça c'est le monde, sans Dieu, sans espérance, tant qu'il y a de la vie, monsieur, il y a de l'espoir. Ça permet quelque part à l'homme de se donner une petite bouffée d'oxygène. Mais cette petite bouffée d'oxygène, elle va vite disparaître, pour amener l'homme à réaliser qu'au lieu d'être oxygéné, intérieurement il s'étouffe. C'est la raison pour laquelle, eh bien, le mot espérance est important. Quand on dit tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, eh bien, je dirais que dans ces conditions, je rajouterai ceci, le problème commence quand il n'y a plus de vie. J'espère que vous me suivez. Le problème commence quand il n'y a plus de vie. Parce que la Bible dit dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 15, Nos jours, en tant qu'hommes, sont comme l'ombre, et il est rajouté, point d'espérance. C'est ce que dit la Bible. Nos jours sont comme l'ombre, point d'espérance. Tous les hommes qui vivent sans Dieu, en effet, ils réalisent la dureté d'une vie sans espérance, je l'ai dit, je le répète, véritable. Et Paul va le confirmer en parlant du passé des Éphésiens. Quand il écrit aux Éphésiens, eh bien, il va leur dire, et je l'ai cité ce passage tout à l'heure, j'insiste encore maintenant, Éphésiens chapitre 2 verset 12, eh bien, les hommes sont sans Dieu et sans espérance dans le monde. Mais pour ceux qui ont la foi en Jésus-Christ, pour ceux qui s'attachent à Christ, comme Jonathan s'est attaché à David, comme Jonathan a aimé de toute son âme David. Quand nous aimons Dieu de tout notre cœur, Jésus de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée. Quand on a donc cette confiance en Jésus-Christ, totale, absolue, complète, c'est alors que commence l'espérance. Si peut-être quelqu'un ici ce matin, un frère, une sœur, je ne sais, ou quelqu'un qui écoute ce message sur le site, je voudrais vous dire ceci, si vous avez dit hier, je suis désespéré, il est grand temps que vous reconnectiez votre cœur, votre âme avec Jésus. Normalement un chrétien, quelqu'un qui est né de nouveau, ne désespère pas. C'est pas normal. Parce que ce sont ceux qui sont sans Dieu qui sont sans espérance. Ce sont ceux qui ne s'attachent pas à Jésus et dans la démarche de foi en Jésus-Christ qui sont sans espérance. Mais celui qui croit en Jésus, Jean 11, verset 25, celui qui croit en Jésus vivra, quand bien même il serait mort. Alléluia. Quand je vais à des obsèques de collègues, de frères et de sœurs qui sont restés fidèles et obéissants à Jésus-Christ dans la foi jusqu'au bout, j'ai de la peine, comme tout le monde. Mais cette peine va se transformer rapidement en joie. Parce que je sais qu'ils ne sont pas morts. Ça vous étonne? Je vous sens très dubitatif, là. C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Et je crois ce que Jésus dit. Je sais qu'ils sont pas morts. Quand j'ai perdu ma maman et mon papa, qui ont donné leur cœur au dernier moment de leur vie, dans leur dernier souffle, ils ont accepté Jésus. Et que j'étais aux obsèques de mon papa et de ma maman, j'étais dans la peine. Parce que je suis un être humain. J'ai des sentiments, des émotions. « Mais après, ce qui m'a consolé, c'est que je sais qu'ils ne sont pas morts. Et Jésus le dit, celui qui est en Christ, il a la foi. Et là, il y a l'espérance. Celui qui croit en Jésus vivra. Il vivra, quand bien même il serait mort. L'espérance chrétienne, mes frères et sœurs, mes amis, commence quand l'espoir humain doit s'arrêter, faute de pouvoir exister. L'apôtre Paul, aux Romains, chapitre 4, verset 18, dira « Espérant contre toute espérance, et il parle d'Abraham, Abraham crut. » C'est fort. « Espérant contre toute espérance, Abraham crut. » Et ce texte signifie quoi ? Ce texte signifie que les éléments propres à donner à Abraham de l'espoir pour concevoir un fils qui avait disparu. Alors une solution lui restait. Croire dans la promesse de Dieu et espérer en Dieu. Jésus-Christ est notre espérance, dit Paul à Timothée. Jésus-Christ demeure notre espérance. Et la croix et la résurrection de Jésus-Christ sont les bases de l'espérance chrétienne. Si vous enveloppez la croix et la réalité de ce qui découle de la croix, c'est-à-dire la grâce source de salut, si vous enlevez la résurrection de Jésus-Christ, car Jésus n'est pas resté sur une croix, alléluia, sinon je ne serais pas là ce matin, j'irai à la pêche, mais Jésus n'est pas resté sur la croix, il est ressuscité, et il est vivant au siècle des siècles, mais si vous enlevez la croix et la résurrection, alors tout s'écroule, il n'y a plus d'espérance. Et comme nous sommes dans un monde où beaucoup d'hommes et de femmes rejettent la croix, et ce qui en découle, rejettent la réalité de la résurrection de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même au milieu des hommes, qui a donné sa vie pour le pardon de quiconque croit en lui, et ensuite, après sa résurrection, alléluia, il est reparti, eh bien, auprès du Père, dans les lieux célestes. Quand les hommes ne croient pas en cela, quand ils rejettent la résurrection, quand ils rejettent la crucifixion, il n'y a plus d'espérance. Et notre pays est un pays qui désespère. Parce que c'est un pays, malheureusement, qui est conduit dans cette direction de vouloir rejeter la croix. La prédication de la croix, dit Paul, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Elle est une puissance de Dieu. Pour le salut de quiconque croit. Mais il est rajouté, mais elle est aussi une folie. Pour ceux qui périssent, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas d'espérance, pour ceux qui rejettent cette réalité qui peut changer leur vie, si je suis là, si vous êtes là, c'est que ça a changé notre vie, ce n'est pas une idée, une philosophie, une drogue, excusez-moi, entre guillemets, non, non, moi j'ai pas besoin de cela, j'étais drogué avant, oui, j'étais alcoolique avant, oui, mais ça c'est avant. Eh oui, j'étais perdu, j'étais désespéré, j'avais une étiquette religieuse, mais ça ne servait à rien, ça changeait rien à ma vie. J'étais malheureusement dans la désespérance. Mais le jour où j'ai entendu parler de la croix, le jour où j'ai entendu parler de Jésus mort, mais bien plus, ressuscité d'entre les morts, alors j'ai décidé d'unir mon cœur au sien, j'ai décidé de m'attacher à lui, comme Jonathan s'est attaché à David, et c'est ce que vous avez vécu, la plupart d'entre vous, si ce n'est tous. Et à partir de ce moment-là, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure, l'espérance est descendue dans mon cœur. J'ai commencé à croire. Vous avez commencé à croire. Quiconque est en Christ commence à croire. La foi est là. Elle descend dans son cœur. Et là, la croix et la résurrection de Jésus-Christ sont et demeurent les bases de l'espérance chrétienne. Par lui, par Jésus, Dieu accorde la vie éternelle. Et il est aussi en mesure d'intervenir miraculeusement dans le problème qu'est le vôtre, s'il y a problème. Mais qui n'en a pas ? À part d'être au ciel. Mais pour l'instant, on est sur la terre. Dans les problèmes qui sont les vôtres, les problèmes humains, quand bien même tout espoir serait perdu. Et quand nous revenons à Jonathan, vous et moi. Et quand nous revenons à David, qui nous parle de ce que Jésus est, bien sûr plus grand que David, cette espérance, elle repose alors sur des bases solides. Alléluia. Les bases de cet attachement, car j'ai donné un titre à ce message, c'est « Jésus et moi, un attachement durable ». Et quand j'ai posé les bases de cet attachement, certes, on a parlé de la croix, on a parlé de la résurrection, on parle toujours de Jésus, mais en définitive, je me rends compte, au travers du texte que nous avons lu, que l'âme de Jonathan, j'insiste là-dessus, fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan, j'aime cette expression de la parole de Dieu concernant Jonathan, et Jonathan aima David comme son âme, comme son âme. Il aima David comme son âme. En définitive, les bases de l'attachement à Christ, pour que mon espérance demeure et que je ne me laisse pas gagner par la morosité de ce pauvre monde. J'ouvre une parenthèse, je ne voudrais pas que l'église de Groyer, ou quelque église que ce soit, c'est ce que disent aussi mes collègues, puisse, eh bien, devenir morose. Je vais vous dire quelque chose, franchement, hein, entre nous soit dit. Moi, je me suis converti dans les années 80. Donc, c'est pas, il n'y a pas longtemps. C'est pas si vieux que ça. D'autres se sont convertis dans les années 70. C'est pas si vieux que ça. D'autres dans les années 60. C'est pas si vieux que ça. Bon, après, quand on descend dans les années 50 et 40, là, ça commence à faire. Bref, je reviens à mon témoignage. Et pour les autres, également, ils vont me suivre dans ce raisonnement. Je me suis converti dans les années 80 et que je suis rentré dans l'église comme celle-ci, comme l'église évangélique. Ce qui m'a touché, je vous le dis franchement, c'est même pas la première fois, ce qui m'a touché, c'est même pas la prédication de l'évangile. Ça m'a pas touché tout de suite. Ce qui m'a touché, c'est l'amour que je ressentais au sein de l'Église. Vous savez, quand on arrive pour les premières fois, on ressent tout, on voit tout, on discerne tout. On a l'impression que les gens qui viennent de l'extérieur, ils sont, vous savez, pas du tout dans la bonne vision des choses concernant l'Église. Détrompez-vous. Dès qu'ils rentrent, ils ressentent tout. S'il y a de l'amour, s'il y a de la vérité, s'il y a de l'accueil, s'il y a de la chaleur... Je ne parle pas des chauffages. Hein. S'il y a de la chaleur, hein, s'il y a une véritable communion, si les chrétiens entre eux s'aiment vraiment, ils le ressentent tout ça. Hein. Parce que moi, je me souviens comment j'ai vu les choses. Hein. Ça n'a pas changé. Le cœur de l'homme, il est toujours le même. Donc, et je pense que vous aussi, souvenez-vous comment vous vous êtes arrivé la première fois. Bref, ce qui m'a touché, c'est l'amour que je ressentais. L'amour de Dieu, mais l'amour entre frères et sœurs. C'était pas un mot, c'était vraiment visible. Moi, je suis arrivé, les gens m'embrassaient. Je dis, mais pourquoi ils m'embrassent? Je les connais même pas. Moi, j'avais l'habitude de faire la bise à des gens qui étaient proches. À des gens qui étaient des amis, proches, que je connaissais bien. Eux, ils avaient... Je comprenais pas. Mais je dis, pourquoi ils m'embrassent? D'où on se connaît? Et puis, ensuite, ils sont arrivés, ils me donnent un recueil. Qu'est-ce qu'ils me donnent un recueil? Je ne vais pas chanter, je chante comme un canard. Ça n'a pas changé. Bref, toutes sortes de réactions parce que je n'étais pas habitué à cela. Mais c'était vrai. Et puis, ce qui m'a touché, c'est l'espérance de ces chrétiens. Ça se voyait, ça se ressentait. Ce n'était pas seulement un mot, une doctrine inscrite dans la théologie. Non, c'était vivant. Il y avait des bases d'un amour vis-à-vis de Dieu. Quand je les entendais louer Dieu spontanément, je vous encourage à élever vos voix. Vous n'élevez pas assez vos voix dans cette église. Je vous encourage, si vous êtes en vacances, d'aller dans d'autres églises où il y a la vie. Je peux vous donner un petit peu des adresses. Mais vous allez voir, il faut que vous soyez spontané. Moi, ce qui m'a touché, c'est la spontanéité des chrétiens dans la prière. Parce que là où j'allais avant... C'était, alors pour ceux qui écoutent sur le site, il y a un vide là. Hein. C'était mort. Et les gens répétaient ce que l'ecclésiastique disait, je l'avais fait moi. Mais c'était mort. Mais là, il y avait la vie. Pourquoi ? Parce qu'il y avait l'espérance. Et il y a toujours l'espérance. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'amour en Jésus-Christ. Parce qu'il y a l'amour de Christ. Parce qu'il y a l'amour de Dieu, alléluia, qui surpasse toute connaissance. Et qui remplit nos cœurs, nos vies. Si vous avez du mal à élever votre voix, c'est pas seulement de la timidité. Arrêtons avec la timidité. C'est parce que peut-être il y a des choses qui vous bloquent. Peut-être parce que, eh bien, ça peut arriver, il y a plus de la désespérance que de l'espérance. Et cette espérance, je la trouve en Jésus. Abraham a cru, il a eu cette espérance, il a espéré contre toute espérance. Il y a des choses qui nous dépassent, mais tout est entre les mains de Dieu. L'attachement, c'est le résultat de l'amour et de l'estime que j'ai à l'égard de Jésus et que Jésus a à l'égard de ma personne. Et ça va de pair avec la découverte de la personne à laquelle nous allons nous attacher. Jonathan s'est attaché à David, David s'est attaché à Jonathan. Le même principe est valable à propos de notre relation avec Dieu et de l'attachement qui doit nous unir à lui. Et il nous est accordé, je l'ai dit il y a quelques instants, je l'ai fait exprès, c'est l'amour, c'est le ciment. Il y a trois choses qui demeurent, la foi, l'espérance et l'amour, mais la plus grande de ces choses, c'est quoi ? C'est même pas la foi, c'est même pas l'espérance, c'est l'amour. Et dans 1 Pierre, Pierre, dans sa première lettre, au chapitre 1er, versets 22 et 23, dira « Par votre obéissance à la vérité, vous avez purifié vos âmes et vous avez reçu en don, en cadeau, un amour vrai. » J'ai pris la traduction parole vivante, hein. Et je rajoute, vous avez reçu en cadeau un amour vrai, sans feinte, ni faux semblant. Aimez-vous donc de tout votre cœur et avec constance, puisque vous avez été régénérés par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous le savons, la régénération est le produit de la nouvelle naissance. Et elle s'effectue sous l'action conjuguée du Saint-Esprit et de la parole de Dieu. Mais il ne faut pas oublier, mes frères et sœurs, que la parole de Dieu est plus qu'un livre, c'est la personne de Jésus. Jean chapitre 1er, verset 1er, le Verbe. La parole est devenue chair. Amen. C'est plus qu'un livre, c'est la personne même de Jésus. Celui qui, vivant en nous, par le Saint-Esprit, par la vérité qui anime notre cœur dans l'espérance de la foi, c'est lui, Jésus, qui va nous régénérer. La vie selon l'amour, elle conduit aussi non seulement à servir Dieu, mais je ne peux pas servir Dieu si je ne sers pas les autres. Sinon, c'est comme si je disais, et je reprends ce que dit Jean, d'aimer Dieu si je n'aime pas ceux qui sont à côté de moi. Alors la Bible dit, je suis un menteur. Et vous savez ce que dit Paul aux Galates, les menteurs ne peuvent pas hériter du royaume des cieux. C'est trop grave. On ne peut pas jouer avec cela. Ça concerne notre éternité. Elle n'est pas seulement scellée parce que nous avons accepté Jésus-Christ. Elle va se sceller plus fortement parce que je mets en pratique la parole de Dieu. Et de ce fait, eh bien, comme je viens de le souligner, l'amour, en définitive, est une des preuves que cette régénération a vraiment eu lieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. 1 Jean chapitre 4, verset 8, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Jonathan s'attache à David. David s'attache à Jonathan. Il y a une relation dans les deux sens. Et sur le plan de notre relation avec Christ, c'est une chose. Mais sur le plan de notre relation avec les autres, c'est également important. L'un ne va pas sans l'autre. Sinon, il y a un déséquilibre et je me trompe moi-même. Je suis dans des faux semblants. Et je me laisse feinter par mes idées, mes pensées qui peuvent m'égarer. Ce qui doit me toucher, me permettre ainsi de rester bien ancré dans ce qui est solide, c'est de dire, Seigneur, effectivement, tu as changé ma vie, tu as fait de moi une nouvelle créature, tu m'as régénéré, tu m'as donné une vie nouvelle, et dans cette vie nouvelle s'inscrit la réalité de l'amour par rapport au fait que je suis aussi dans l'espérance que j'ai reçue, l'amour. Vous savez, quelqu'un qui est plein d'espoir, ça se voit. C'est quelqu'un qui va être avec une générosité extraordinaire. Je ne parle pas au niveau financier, parce que les gens parlent de... Quand on parle de générosité, ils voient que cela, l'argent. Non, je parle de générosité dans la communion, dans le partage, dans la confiance, dans l'écoute, etc. Et pardonner du peu, mais Jésus est dans cette attitude-là vis-à-vis de son Église, vis-à-vis de ses rachetés, vis-à-vis de ceux qu'il a purifiés par son sang pour les avoir avec lui, pour nous avoir avec lui un jour dans le ciel. Mais déjà sur la terre, on apprend à vivre ensemble, et quand on est dans l'espérance, ce vivre ensemble devient plus facile. Quand on a l'espérance de Dieu, alors ce vivre ensemble devient plus aisé. Il y a une profondeur qui s'installe. Ce n'est pas « je suis assis à ma place et puis les autres, je ne m'en préoccupe pas ». Je suis assis à ma place, mais je sais que je ne suis pas tout seul, parce que permettez du peu, mais dans le ciel, on sera nombreux. Au risque de vous décevoir, vous ne serez pas tout seul dans le ciel. Seul avec vous-même, en disant « merci pour l'espace que tu me donnes, Seigneur, de pouvoir occuper, et merci de ce que les autres ne sont pas là, c'est pour moi tout ça, gloire à Dieu ». Non, c'est pas que pour toi, c'est pour les autres. Et l'espérance que Dieu nous donne, l'espérance de la foi, c'est cela, c'est ce regard-là que j'ai avec l'amour de Dieu qui a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de Christ, mais vis-à-vis des autres. Et l'apôtre Paul aux Éphésiens va le dire au chapitre 5, verset 2, « Marchez dans l'amour, marchez dans l'amour ». Il n'est pas écrit « marcher sur l'amour », il n'est pas écrit de piétiner l'amour, mais de marcher à l'intérieur de cet amour, à l'intérieur de ce don, plus que l'espérance, l'amour qui se joint à cette espérance. Je marche dans l'amour, je marche dans l'espérance, j'en suis inondé, j'en suis rempli, alléluia, j'en suis revêtu. Et je le disais tout à l'heure, quelqu'un qui a l'espérance, bien plus, alors en Christ, quelqu'un qui est dans l'amour, alléluia, ça se voit. C'est pas une théologie, c'est pas une théorie à laquelle j'adhère intellectuellement, religieusement, je suis ceci sur le plan religieux. Non, c'est une vie. Ça transforme, parce que j'ai été moi-même transformé. Ça régénère, c'est-à-dire mes gènes, ma génétique spirituelle, elle est complètement bouleversée, elle est à l'image de Christ. Oh, que j'aime la vie chrétienne dans ce sens-là. Pas une vie chrétienne morne, terrible, difficile. Oh, il faut que j'aille à l'église, c'est dimanche matin. Le pasteur, il a avancé d'un quart d'heure la réunion. Le culte, c'est terrible. Eh bien, si c'est comme ça, j'irai pas ce matin. Alors, ça vous choque? Mais malheureusement, c'est comme ça que certains réagissent. C'est grave. On voit que Jésus revient bientôt. Parce que Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Oh, il y verra beaucoup de croyances, beaucoup d'idées. Beaucoup de philosophie, beaucoup de plein de choses, mais certainement pas beaucoup de foi. Que Dieu fasse qu'à notre niveau, nous soyons dans la foi, l'espérance, l'amour. Et par-dessus tout cela, ça vient le couronner, l'amour. Marcher dans l'amour à l'exemple de qui? Du pasteur? Non, parce que moi je peux faillir parfois. Je dois rester irréprochable, mais on n'est pas infaillible, non plus. Mais on a un exemple parfait. Jésus. Marcher, c'est marqué, hein, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés. C'est clair quand même. Et en plus, il s'est livré lui-même à Dieu, pas que pour Frédéric par exemple. C'est vrai, mais pour vous, pour moi,
pour tous les Groyétois, pour tous les Tardés, pour tous les pauvres Français, pour les hommes encore vivants sur cette terre actuellement, pour nous. Et le contexte de ce verset, verset 2, Éphésiens 5, indique que l'amour se garde de faire ce qui pourrait nuire aux autres. C'est ça le contexte, relisez. Et conduit à rechercher leur intérêt. Le service des autres pousse dans l'amour. Le service des autres pousse au don de soi. Le service des autres, ou pour les autres, pousse au sacrifice quelque part. Je ne parle pas de mourir sur un autel où on est sacrifié. Bien sûr que non. Je parle du sacrifice, du temps que je vais donner, de ma générosité que je vais offrir. Parce que je suis attaché à Christ. Et Christ est attaché à moi. Je vais m'attacher donc profondément à Jésus. Et je l'ai dit, je le répète, et cela va avoir irrémédiablement, alléluia, gloire à Dieu, des répercussions à l'égard des autres. Cela va naître de la parole qui sort même de la bouche de Jésus dans mon cœur et qui va se manifester ensuite de ma propre bouche pour les autres. Je ne peux donner que ce que j'ai reçu. Ne soyons pas, eh bien, un lit. Je ne parle pas du lit où on dort, le lit d'une rivière, le lit d'un fleuve. Ne soyons pas un lit asséché, un lit sec. Mais soyons, alléluia, de ceux qui vont être ce lit rempli de l'eau, de la vie, qui vient du ciel, qui coule du trône même de Dieu, du cœur de Christ, alléluia, par sa parole et son esprit. Les actes et les paroles de David qui ont été prononcés, j'y reviens au texte, sont les sources de l'attachement qui a inspiré Jonathan et même David. Car quand je regarde le contexte, il suffit de lire le chapitre 17, tout s'explique, la parole de Dieu s'explique par elle-même. Jonathan a été le témoin de quoi ? Il a été le témoin de la victoire de David sur Goliath, chapitre 17. Il a été aussi l'auditeur de suite, chapitre 18, verset 1er, on l'a lu. Il a été ensuite l'auditeur des paroles de David. Il est écrit, David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Donc, il a été témoin de la victoire de David sur Goliath, alléluia. Et il a été l'auditeur des paroles de David. Et ça, tout ce contexte, tout ce que je viens de souligner ici, mes frères et sœurs, c'est ce qui a provoqué l'attachement de Jonathan à David. Les actes d'hier, consignés dans les saintes écritures, les actes de qui ? De Dieu en Jésus-Christ. Mais pas seulement les actes d'hier consignés dans la parole sainte de Dieu en Jésus-Christ, c'est les actes également encore répétés aujourd'hui. Jésus guérit. Jésus sauve. Jésus baptise du Saint-Esprit. Jésus revient bientôt. Amen. Il revient bientôt. Et quand Jonathan entend et voit, entend les paroles de David, voit les actes de David, ça le touche. Les actes et les paroles de Jésus vont entraîner notre attachement à lui. Pourquoi ? Parce qu'on va être de ceux qui aiment toute la vérité qui vient de Jésus. En définitive, on aime ce qui sort de la bouche de Jésus, on aime Jésus, parce que la vérité, c'est ce qu'il dit, et la vérité, c'est ce qu'il est. Et mon attachement à lui
ne va pas être seulement un petit attachement de quelques jours, de quelques semaines, même après mon engagement par les eaux du baptême, c'est trop arrivé malheureusement, mais un attachement là, fidèle, engagé, consacré, bouillant, je prends ma place, je loue Dieu, j'adore Dieu, on ne retient plus ma personne. Et puis avec le temps qui passe, je le disais vendredi soir, je commence à être vieux sur le plan spirituel. Je parle pas sur le plan physique, je parle sur le plan spirituel. J'espère que vous n'êtes pas devenu vieux. Sur le plan spirituel, quel âge avez-vous? Sur le plan de la foi, ne me parlez pas des années de votre conversion, ça sert à rien ça. Ça m'impressionne pas. Moi, le premier, je suis même pas impressionné depuis toutes ces années où je marche avec Dieu. Non, ça ne nous impressionne pas et ça impressionne pas Jésus. Parce que on peut être converti depuis 5 ans, on peut marcher avec Dieu depuis 30 ans, et la différence, elle va se voir. Celui, ça fait 5 ans, il est en train de me dépasser. Parce que son attachement à Jésus, son attachement à la vérité, son attachement au cœur de Dieu est bien plus fort que ce qui de mon propre attachement à Dieu, de mon propre cœur attaché à Dieu. Pourquoi ? Parce que j'ai pris de l'âge spirituellement, parce que les choses du monde ont repris la place, parce que les pensées du monde ont repris la place, parce que mon obéissance n'est pas complète à Dieu. Donc le Saint-Esprit me résiste. Non pas parce qu'il ne m'aime pas le Seigneur, mais parce qu'il veut me ramener vers lui. Relisez la parole de Dieu, je suis désolé. Aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament, et vous allez vous rendre compte que ce que je vous dis, c'est la vérité. Il y a un attachement très fort, très fort. Alléluia. Les miracles, la croix, la résurrection, les enseignements de Jésus-Christ sont de nature à inspirer ma foi. C'est l'apôtre Pierre qui a dit, mais à qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre nous attacherions-nous? À qui d'autre serions-nous vraiment uniques à toi? C'est toi qui as les paroles de la vérité. C'est toi qui as les paroles qui donnent la vie en abondance. À qui d'autre irions-nous? Jésus a vaincu Satan. Normalement, quand je dis cela dans une autre église, il y a des alléluia, des amen, surtout chez les gitans, hein. Je répète, j'y arriverai, hein. Jésus, j'ai pas peur de le dire, hein. Je le dis souvent, Jésus, n'ayez pas peur, hein, le diable est vaincu, hein. Il va pas venir vous attaquer à la sortie, là, hein. Si vous êtes en Christ, il n'y a pas de problème, hein. Jésus a vaincu Satan. Alléluia. Il a vaincu le Goliath spirituel. Il l'a fait tomber. Oh, vous allez me dire qu'il remue. Ouais, mais c'est normal qu'il remue. Il sait qu'il en a pour de temps, mais il essaye à mettre le désordre. Mais Jésus est celui qui est bel et bien là. Il a vaincu le Goliath spirituel du monde des ténèbres. Alors, mes frères et sœurs, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre? J'en ai déjà pas mal dit. Mais je voudrais, si vous me le permettez, insister sur cette nature de cet attachement à Dieu. Alléluia. De réaliser que, après tout, en Jésus-Christ, il y a quelque chose de fort. Parce que l'Écriture nous dit que l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. Son âme. Et nous l'avons lu tout à l'heure. Mais cet attachement va se manifester par une alliance, parce que Jonathan va faire alliance avec David. Et l'Évangile nous invite, écoutez bien, à faire la paix avec Dieu par le sang de Jésus. Avoir fait la paix avec Dieu. Romains chapitre 5, verset 1er, étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Avant de rechercher toute autre source de paix, mes bien-aimés, Il est nécessaire à tout homme, à chacun d'entre nous, de cesser toute attitude, peut-être, d'une manière ou d'une autre, en parole, en pensée, on peut, malheureusement, ça peut arriver, il faut faire attention, mais nous ne sommes plus de ceux qui devraient être hostiles à notre Créateur, oui ou non? Alors, nous devons être dans la paix avec lui par la foi en son Fils. Avoir la paix avec Dieu, mais avoir la paix de Dieu. Deuxième. Avoir la paix avec Dieu, mais avoir aussi la paix de Dieu. Philippiens 4, versets 6 et 7, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, etc. Et la paix de Dieu qui gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Vous avez remarqué que l'inquiétude, c'est quelque chose qui peut tuer un cœur. L'inquiétude est un grave obstacle à la paix. La prière de la foi est le moyen de s'en décharger sur Dieu et de trouver la paix parce qu'il prend soin lui-même de nous, le Seigneur. Elle surpasse toute intelligence. Pourquoi ? Parce qu'elle est de nature surnaturelle, mes frères et sœurs. Et puis, non seulement avoir fait la paix avec Dieu, avoir la paix de Dieu, mais avoir le Dieu de paix avec soi. Ça, c'est un merveilleux triptyque. La paix avec Dieu, la paix de Dieu, et le Dieu de paix avec soi. Philippiens 4, versets 8 et 9, « Et le Dieu de paix, dit Paul, alors il y a le contexte, il explique certaines choses, et le Dieu de paix sera avec vous. » C'est-à-dire que si notre pensée, je reviens sur le contexte, est entretenue par ce qui est propre à donner la paix, c'est-à-dire, dit Paul, ce qui est vrai, ne vous laissez pas déconcentrer. Ce qui est vrai, ce qui est honorable, ce qui est juste, pesez tous les mots, hein. Ce qui est pur, ce qui est aimable, ce qui est vertueux et ce qui est digne de louange. Quand tout cela, tous ces qualificatifs qui sont appelés à être vécus, remplissent nos pensées, nos cœurs, le Dieu de paix, excusez-moi, est avec nous. Nous sommes en paix avec Dieu, nous avons la paix de Dieu, mais le Dieu de paix est avec nous. Et si nous nous appliquons, pour ça que j'ai prié dans ce sens tout à l'heure, et que je vous ai dit ce que je vous ai dit, si nous nous appliquons à pratiquer ce que nous avons appris, ce que nous avons reçu, ce que nous avons entendu de la part du Seigneur au travers de l'enseignement de ses serviteurs, et ici, en l'occurrence, l'apôtre Paul, alors il est assuré d'avoir le Dieu de paix avec lui. Mais il faut, j'insiste, bien sûr, apprendre, recevoir et entendre, et bien sûr, le vivre. Et c'est ce qui fait parfois défaut, et c'est pour cela que l'on ne peut pas parfois également, on est bloqué, on est gêné, pour procurer et répandre la paix, l'espérance, la foi, l'amour et la paix. Et ça fait toute la différence au sein d'une église, du rassemblement d'une église, au sein de ma maison, dans mes contacts avec les gens que je côtoie chaque jour, car la Bible dit, Matthieu 5, verset 9, heureux, 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 ceux qui procurent la paix. Amen. Alors, il y a une promesse, ils seront appelés fils de Dieu. Qui veut être toujours appelé, j'ai bien dit, toujours appelé fils de Dieu? Si j'avais pu tout lever pour dire oui. Mais pour y arriver, il faut procurer la paix. Il faut procurer, je rajoute, il faut procurer l'espérance. C'est lié. Il faut procurer l'amour. Il faut procurer la foi. Par le moyen de l'évangile, du témoignage, par le vœu que je suis un homme, une femme de prière, spontanée, dans la louange, adoration, ça touche les cœurs. Ça fait quelque chose dans un cœur qui cherche vraiment Dieu, se dit « mais là, c'est différent ». Celui qui possède la paix pour son propre compte est rendu capable de la répandre autour de lui en recherchant ce qui donc y contribue. Je vais terminer. Je me rends compte que Jonathan va faire quelque chose d'extraordinaire, mes frères et sœurs. Il va lui donner à David. Il va donner, donc là, Jonathan, c'est nous, hein. David, ça représente Jésus. Il va donner à, Jonathan va donner à David le manteau qu'il portait, ses vêtements, son épée, son arc et sa ceinture. Quand Jonathan fait cela, qu'il a cette démarche, cet acte, en définitive, c'est un acte, ce qu'il est en train de faire, un acte qu'on appelle un acte d'allégeance. Ça signifie que Jonathan va remettre à David tous les attributs qui sont les siens et qui sont à ce moment-là des attributs princiers, puisque Saül est toujours roi d'Israël. Suivez mon raisonnement. Symboliquement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Puisque Jonathan, c'est vous et moi. David nous parle de Jésus. Symboliquement, ça veut dire que l'alliance que j'ai accepté avec Jésus, qui est Dieu, pleinement Dieu, tout en étant pleinement homme, ça veut dire que l'alliance que j'ai contractée avec lui va être à ce moment-là et est devenue une forme de reddition. Je vais lui remettre en quelque sorte mes vêtements. Je vais lui remettre le manteau dont je me couvrais. Je vais lui remettre les armes dans lesquelles je me confiais. Et je vais ainsi lui dire, Seigneur, tout ce que je te remets, c'est symbolique, bien sûr. Tout ce que je te remets, c'est ce en quoi je me confiais. Et parce que j'ai décidé de m'attacher à toi. Parce que, ainsi, je vais prendre pleinement ce que toi tu me donnes. Je reviens sur ma conclusion dans tout ce qu'on a vu. C'est-à-dire l'espérance, la foi, la vérité, la paix, la joie, la force, l'espérance vivante. Tout ce que tu me proposes, je veux le recevoir, mais pour le recevoir, il faut que ce matin encore, comme je l'ai fait il y a peut-être quelques années en arrière, mais d'une manière réitérée, renouvelée, fraîchement, que je puisse me défaire de ce que je suis, peut-être de ce qui a repris ma vie, de ce qui peut-être me coince, de ce qui peut-être m'écrase. Je veux tout apporter, le laisser à tes pieds. Je dis, Seigneur, prends ma vie. J'aime ce cantique, ce petit cœur. Prends ma vie, serre-toi de moi. Ce que je suis maintenant, c'est à toi. Alléluia. Ça veut dire, Seigneur, je te donne autorité. Alléluia. Sur ma propre volonté, je te donne autorité sur ma propre vie présente et à venir. Ça veut dire, Seigneur, je te donne toute la place. Prends tout, prends ma vie, prends mon être, prends mon cœur. Ce n'est pas seulement là, c'est là que ça se passe, là, dans mon cœur. Je dis, Seigneur, c'est à tes pieds que je me jette. Et si ça fait 30 ans, 40 ans que je marche avec toi, ce matin, je veux m'engager à nouveau et te dire, Seigneur, je veux prendre tout ce que tu me donnes. Prends ce que j'ai peut-être repris et qui n'est pas à ta gloire, pour que ce matin, aujourd'hui, 18 février, je reparte à nouveau, rafraîchi, encouragé, renouvelé, béni du ciel, alléluia, et que quand je vais sortir là, ici et là, je vais dire, voilà, regardez, il n'y a même pas besoin de dire, voilà, regardez, ils le verront. Ils diront, mais tu vas rentrer chez toi, ta femme qui est malade, rien qu'en te voyant, elle va dire, ah, je me sens mieux.
C'est formidable ça, hein? Et oui, parce que ça va lui faire du bien. Il va dire, mais Frédéric, je le prends à partie, hein? Ça ne le gêne pas. Il me l'a déjà dit. Mais elle va dire, mais Frédéric, qu'est-ce que tu as reçu ce matin? Ça fait du bien. Il le ressent. Il le ressent. Il le ressent. Il le ressent. Alors on a trouvé dans le Seigneur un autre vêtement et un nouvel équipement. Ma conclusion sera celle-ci. C'est que, permettez-moi juste 5 minutes, c'est que Jonathan va s'attirer la colère de son père. Vrai ou pas? Parce qu'il va s'attacher à David, qui va surpasser Saül, qui va surpasser tout le monde. Les gens s'attachent à David. C'est normal de s'attacher à notre David, à nous, Jésus, notre Sauveur. Mais il va attirer la colère de son père. Et si vous lisez le chapitre 20 du même livre, hein, chapitre 20, vous allez vous rendre compte, eh bien, que Saül va éveiller dans le cœur, dans l'âme de David, écoutez bien, un sentiment de rivalité. C'est terrible. Et pourquoi je vous dis ça dans ma conclusion? Parce que si je ne l'avais pas dit déjà, il y aurait manqué quelque chose. C'est que, en définitive, la tactique du diable n'a pas changé. Il va toujours essayer d'impressionner ou de suggérer qu'il n'est pas avantageux pour l'homme de suivre Jésus, de s'attacher à Jésus. Et je vous assure, même au sortir de ce lieu, après tout ce que je vous aurais prêché, c'est pour ça que j'ai prié tout à l'heure, dans le sens où j'ai prié avec vous, eh bien, il va vous faire croire que tout ce que j'ai dit, ça vaut pas la peine de le garder, ça vaut pas la peine de le vivre, il va vous faire croire que ça vaut rien, il va dire, mais occupe-toi plutôt d'autre chose que de t'occuper de Jésus. Non, je vous en supplie, de la part de Dieu, vraiment, attachez-vous encore plus fortement à Jésus. Attachez-vous. Ne laissez pas le diable vous suggérer n'importe quoi, de vous dire, mais non, c'est pas avantageux de suivre Jésus. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Saül, envers son fils, il va utiliser le chantage, et il va utiliser toutes sortes de pressions. C'est ce que fait le diable. Et la décision de Jonathan, quelle est-elle? De suivre David ou d'écouter son père? Attention à ce que vous allez dire. Vous êtes sûr? Non, c'est pas biblique. Ça, c'est une... Vous voyez? Comme quoi, on pense que... frère, c'est pas un reproche, hein, mais quand vous lisez le chapitre 20, hein, je m'appuie sur ce qui est écrit, chapitre 20, 1 Samuel, il est écrit ceci, que verset 41, verset 43, c'est précis, qu'avec une immense tristesse, David... va se séparer, Jonathan, se sépare de David et il va revenir dans la ville où se trouve son père. Bien sûr qu'il va le faire à contre-cœur, je vous l'accorde. Mais il va réintégrer le parti de Saül. Ce qui se comprend sur le plan affectif, bien sûr. Mais permettez-moi de rajouter ceci, ce qui se comprend sur le plan affectif à ce moment-là, par rapport à notre attachement, par rapport à Christ lui-même, ça peut devenir suicidaire. C'est pour ça que Jésus dira, celui qui aime son frère, sa sœur, je ne parle pas des frères et sœurs de l'Église, hein, dans notre famille, celui qui aimera son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, etc., plus que moi, dit Jésus, qu'est-ce qu'il est écrit? C'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Hein. Il ne sera pas digne de moi. Alors ça paraît dur, mais permettez du peu. Soit je m'attache à Christ et je suis capable de porter quelque chose aux autres, soit je m'attache aux autres et je ne suis plus capable de les aider. Et moi-même, je m'enfonce, c'est suicidaire sur le plan spirituel. Il ne faut surtout pas faire cela. Non, pas du tout, parce que quand on fait cela, c'est le refus de la croix. C'est le refus de la croix. Et le résultat d'un mauvais calcul est là. 1 Samuel 31, verset 2. Jonathan est tué au combat, qui se termine par la défaite d'Israël et ensuite le suicide de son père, Saül. Et cette mort va inspirer, dans 2 Samuel chapitre 1er, va inspirer ce fameux chant funèbre que va interpréter David, parce que le sentiment de douleur de David est équivalent à ce que Dieu ressent dans de telles circonstances quand quelqu'un
et dans le refus de la croix, le refus de s'attacher à lui avec tout ce qui découle et tout ce que nous avons noté ce matin, Dieu va tout simplement ressentir une grande douleur. Jésus va pleurer. L'Esprit de Dieu est attristé. Mes frères et sœurs, attention, ce chant met en avant la honte pour le peuple de Dieu qui résulte des conduites rétrogrades de certains de ses membres, et il va rendre objectivement hommage à ce qui a été positif dans leur vie. C'est ce que fait quand même David. Mais malgré tout, la réalité, elle est là. Il y a eu non plus un attachement, mais un retrait. Que Dieu nous garde. Mes frères et sœurs, il faut rester fidèles. Et vous noterez que la fidélité de David a été indéfectible. Jésus ne peut pas se renier lui-même. Il nous aime. Son amour est le même. Sa miséricorde durera toujours. Ses compassions n'ont pas changé. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que Dieu ne vous aime pas, même si vous avez à un moment donné peut-être dit « Je vais m'attacher plus à ceci qu'à Dieu ». Vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de revenir vers lui. Ses bras sont ouverts. Et de dire comme Jonathan, « Eh bien, mon âme s'attache à la tienne, mon cœur s'attache au tien. » On rend grâce à Dieu. Je veux te bénir, Seigneur, pour les moments que nous avons encore passés dans ce culte, à écouter ta parole, à prendre le repas, la Sainte-Cène, à t'apporter notre offrande, à t'apporter notre cœur pour qu'il soit ouvert et recevoir ta parole favorablement. Nous te rendons grâce, Jésus, parce que je sais que tu nous invites à rester attachés à toi, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il advienne. Pardonne-nous, Seigneur, et chacun a pu penser à son propre cœur, à sa propre vie, d'une manière honnête et sérieuse devant toi. Seigneur, chacun d'entre nous, nous nous remettons souvent en question, et nous pouvons toujours aller plus loin. Que tu bénisses l'Église de Groyer, que tu aimes et que j'aime profondément. Seigneur, fais éclater ta gloire. Nous aimons nous attacher à ton cœur, autant que toi, tu es attaché au nôtre, et que tu vis par ton esprit à l'intérieur même de notre cœur, de notre vie. À Dieu soit la gloire. Amen.